J'avais envie de vous partager quelques versets du livre des Nombres que j'ai redécouvert en préparant ce message. Donc dans Nombres chapitre 11, versets 1 à 20. Et peut-être avant de vous le lire, je vous rappelle juste le contexte. Donc nous sommes dans le désert. Le peuple hébreu vient d'être libéré d'Égypte. Il a passé un petit peu de temps dans le désert de Sinaï et il s'apprête à le quitter. Dieu le guide à travers la nuée, il le nourrit avec la manne depuis déjà 2 ans. Et Moïse fait l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et le peuple et Moïse avancent, plein d'espoir et d'attente, vers le pays que le Seigneur leur a promis. Alors, je l'ai mis sur les diapos parce que vous savez que j'aime bien travailler avec une traduction qui n'est pas celle dont vous avez l'habitude, mais voilà, vous pouvez le suivre aussi de votre côté. Donc, Nombre chapitre 11 à partir du verset 1. Un jour, le peuple se livra à des lamentations, ce que le Seigneur entendit avec déplaisir. En les entendant, le Seigneur s'enflamma de colère. Le feu du Seigneur ravagea le peuple et dévora un bout du camp. Le peuple lança des cris vers Moïse qui intercéda auprès du Seigneur, et le feu se calma. On donna à cet endroit le nom de Tavera, parce que le feu du Seigneur avait ravagé les fils d'Israël. Il y avait parmi eux un ramassis de gens qui furent saisis de convoitise, et les fils d'Israël eux-mêmes recommencèrent à pleurer. Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous rappelons le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons, l'ail, tandis que maintenant notre vie s'étiole. Plus rien de tout cela, nous ne voyons plus que la manne. La manne ressemblait à la graine de coriandre, son aspect était celui du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser, ensuite on l'écrasait à la meule ou on la pilait dans un mortier. On la faisait cuire dans des marmites et on en faisait des galettes. Elle avait le goût de gâteau à l'huile. Lorsque la rosée se déposait sur le camp pendant la nuit, la manne s'y déposait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, groupé par clan, chacun à l'entrée de sa tente. Le Seigneur s'enflamma d'une vive colère, et Moïse prit mal la chose. Pourquoi, dit-il au Seigneur, veux-tu du mal à ton serviteur? Pourquoi suis-je en disgrâce devant toi, au point que tu m'imposes le fardeau de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Moi qui l'ai mis au monde? Pour que tu me dises, porte-le sur ton cœur comme une nourrice porte un petit enfant, et cela jusqu'au pays que tu as promis à ses pères? Où trouverai-je de la viande pour en donner à tout le peuple qui me poursuit de ses pleurs et me dit, donne-nous de la viande à manger? Je ne puis plus, à moi seul, porter tout ce peuple. Il est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, fais-moi plutôt mourir, si du moins j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je n'ai plus à subir mon triste sort. Le Seigneur dit à Moïse, rassemble-moi 70 des anciens d'Israël, des hommes dont tu sais qu'ils sont des anciens et des scribes du peuple. Tu les amèneras à la tente de la rencontre, ils s'y présenteront avec toi. J'y descendrai et je parlerai. Je prélèverai un peu de l'esprit qui est en toi pour le mettre en eux. Ils porteront alors avec toi le fardeau du peuple et tu ne seras plus seul à le porter. Et au peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain et soyez en état de manger de la viande. Car vous avez fait entendre cette plainte au Seigneur, qui nous donnera de la viande à manger? Nous étions si bien en Égypte. Pardon, j'ai pas... Qui nous donnera de la viande à manger? Nous étions si bien en Égypte. Le Seigneur va donc vous donner de la viande. Vous allez en manger. Et vous n'en mangerez pas seulement un jour ou deux, ni même 5, 10 ou 20. Mais tout un mois, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, jusqu'à ce que vous en ayez la nausée. Tout cela parce que vous avez rejeté le Seigneur qui est au milieu de vous, et parce que vous avez présenté cette plainte. Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Alors, frères et sœurs, vous arrive-t-il de vous plaindre? Nous, Français, on a la réputation d'être de sacrés râleurs, hein, n'est-ce pas? Ça a été rappelé au moment des Jeux Olympiques. Certains ont même fait la remarque, pour une fois, les Français ne se plaignent plus. Toujours insatisfaits, prompts à dénigrer, amateurs du fameux « c'était mieux avant ». Et personnellement, je ne fais pas les exceptions. Mes proches ne se privent pas de me le rappeler. Et je me souviens même, pour l'anecdote, au début de notre relation avec Larissa, on prenait un grand plaisir à revisiter notre journée tous les deux, non sans humour, hein, mais en fonction de tout ce que nous y trouvions de défaillant. On parlait des retards du RER parisien, on parlait du comportement des gens, de la météo. On forçait volontiers le trait, mais quel plaisir de râler ensemble. Quel plaisir de râler ensemble. Eh bien, dans ce texte, au premier abord, tout le monde semble insatisfait. Tout le monde se plaint. Le peuple d'Israël se lamente de ce qu'il mange. Moïse n'en peut plus. Alors, il n'en peut plus du peuple, il n'en peut plus de Dieu, des deux à la fois. On y reviendra. Et même Dieu, il est très remonté contre ce peuple. Alors je vous propose déjà d'examiner la plainte ou les lamentations du peuple d'Israël. Voilà, je vous ai remis l'extrait sur l'écran. Donc le peuple se lamente. Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous rappelons le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons, l'ail. Tandis que maintenant, notre vie s'étiole, plus rien de tout cela. Nous ne voyons plus que la manne. Alors, ça semble clair, hein. Ils n'en peuvent plus de manger de la manne, et ils aspirent un peu de diversité alimentaire. Et je pense qu'on peut les comprendre, hein. Israël mange de la manne tous les jours depuis au moins 2 ans. C'est ce qu'on trouve dans le chapitre 10 du livre des Nombres. Bon, ça présente bien, hein. On nous dit dans ce qu'on a lu tout à l'heure qu'elle avait le goût de gâteau à l'huile. Et puis, on sait par ailleurs que le Seigneur pourvoit dans les bonnes quantités, même quand il y a le jour du sabbat, on reçoit une double ration la veille, donc on n'en manque pas. Mais franchement, tous les jours, pendant 2 ans, ça commence à faire long, hein. On les entend même dire, au verset 6, « Notre vie s'étiole ». Alors, dans la traduction nouvelle traduction français courant, la traduction c'est « Nous dépérissons ». Ben oui, on peut imaginer les carences que ce régime alimentaire peut produire, hein. Et la fameuse vitamine B12, alors. La plupart des véganes aujourd'hui savent qu'il faut consommer des compléments alimentaires. On n'en trouve pas dans les produits animaux. Alors j'imagine qu'à leur place, on serait assez prompt à se plaindre. En tout cas, moi, je pense qu'effectivement, j'aurais envie d'autre chose. Et puis, crier à Dieu de cette manière, c'est un peu devenu une habitude chez les Israélites, hein. Je vous rappelle quelques épisodes précédents. C'est le passage que j'ai affiché. 3 jours seulement après avoir quitté la mer Rouge, dans Exode 15, verset 23, on nous dit « Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent boire l'eau de Mara, car elle était amère, d'où son nom Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Alors Moïse crie vers le Seigneur, qui lui ordonne de jeter un morceau d'un bois particulier, qui rend l'eau douce. Et le problème est résolu. 2 mois et demi après, en Exode 16, verset 2, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël murmura contre Moïse et Aaron. Les fils d'Israël leur dirent, « Ah, si nous étions morts de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près du chaudron de viande, quand nous mangions du pain à satiété, vous nous avez fait sortir dans ce désert pour laisser mourir de faim toute cette assemblée. » Et qu'est-ce que le Seigneur fait ? Le Seigneur fait pleuvoir la manne le matin, même des cailles, il est dit aussi. Alors, j'ai pas réussi à savoir si les cailles, c'était régulier ou si c'était juste la première fois. Mais en tout cas, on sait que la manne arrive tous les matins. Donc, au chapitre 16 dans Exode. Et puis, encore un peu plus loin, en Exode chapitre 17, là-bas, le peuple eut soif. Donc, il s'agit du passage de Massa et Meriba. Le peuple murmura contre Moïse, encore une fois. « Pourquoi donc, dit-il, nous as-tu fait monter d'Égypte pour me laisser mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ?» Que fait Moïse ? Il crie vers le Seigneur, hein, c'est les termes qui sont employés, et le Seigneur lui ordonne de frapper un rocher pour faire couler de l'eau. À nouveau, le problème est résolu. Pour chacun de ces épisodes, le peuple se plaint, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de demande, hein. Il se plaint à Moïse plus qu'il ne crie vers Dieu, hein. Et à chaque fois, Dieu répond de bon cœur, de manière miraculeuse, pour satisfaire les besoins d'Israël. Alors pourquoi dans le passage qu'on a lu, qu'on lit aujourd'hui, Dieu se fâche-t-il à ce point ? Est-ce que ce serait par lassitude ? Eh bien, à y regarder de plus près, la situation de notre texte est différente des trois épisodes que je vous ai relatés. D'abord, concernant l'origine de la demande. Dans les premiers épisodes, on voit le peuple parler, ou plutôt pleurer, d'une seule voix. Il y a une unanimité du besoin. Tout le monde a soif, tout le monde a faim. À l'inverse, dans notre texte, je ne sais pas si vous avez remarqué comment ça démarre. Je ne sais plus si je vous l'ai mis. Non, je ne l'ai pas. Ah si, peut-être. Oui, voilà. Au verset 4. Il y avait parmi eux un ramassis de gens qui furent saisis de convoitise, et les fils d'Israël eux-mêmes recommencèrent à pleurer. On constate que la plainte émane initialement d'un petit groupe de gens, un ramassis de gens. Et puis vraisemblablement même pas des Israélites à part entière, puisque on fait la distinction, ensuite on dit « et les fils d'Israël eux-mêmes recommencèrent à pleurer ». Donc c'est plutôt un petit groupe qui contamine l'ensemble du peuple élu, tel que c'est relaté. Et puis il y a une autre différence par rapport à ce qu'on a lu avant, par rapport au passage précédent dans l'histoire d'Israël, concernant l'objet de la demande. Dans les épisodes précédents, il s'agit d'un besoin de première nécessité. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de nourriture. Dans notre passage, il est dit qu'ils agissent par convoitise. Et on constate en effet qu'il s'agit bien davantage d'une demande de confort. Hein. Ils avaient de quoi manger. Et la liste nostalgique des ingrédients du pays d'Égypte, là, qui vous a peut-être donné faim, laisse penser qu'ils veulent de la diversité. Mais en fait, ce qu'ils demandent, c'est bien plus ambitieux que ça. C'est pas juste de la diversité, ils veulent de la viande. Et qu'est-ce que c'est la viande ? Ben, la viande, c'est un mets de fête, c'est un mets de luxe. Et d'ailleurs, si vous en êtes pas convaincu, on voit la difficulté que Moïse, quand il se projette... alors, c'est au verset 13. Je ne l'ai pas mis à l'écran, mais... Moïse se demande comment il va pouvoir en trouver. Et puis, il a même des doutes, une fois que Dieu a répondu, sur la capacité de Dieu à fournir cette viande. C'est au verset 21. Moïse reprit, donc il s'adresse à Dieu, et il dit « Le peuple compte 600 milliers de fantassins, ce peuple au milieu duquel je me trouve. » Et tu dis, je vais leur donner de la viande et ils auront à manger pendant tout un mois. Quand même on abattrait pour eux petit et gros bétail, cela leur suffirait-il ? Tous les poissons de la mer, si on pouvait les pêcher pour eux, leur suffirait-il ? Il y a vraiment une dimension d'une demande qui est exagérée. D'ailleurs, si on veut aller même dans le détail, hein, il est dit, le peuple dit, nous ne voyons plus que la manne. Dans la Nouvelle Bible Seconde, une autre traduction, on dit « Nos yeux ne voient que la manne ». Il est question de voir. C'est ça. Donc mentionner les yeux, ça accentue vraiment le fait qu'il s'agit d'un désir, qu'il s'agit de convoitise. Et puis enfin, derrière cette demande, vous l'aurez probablement compris, il y a malgré tout un vrai rejet de Dieu. À la fin du passage, au dernier verset, verset 20, Dieu résume la plainte du peuple. On ne peut pas dire que j'imagine que Dieu se trompe sur l'interprétation de la plainte du peuple. Hein, et donc Dieu résume la plainte en disant « Tout cela parce que vous avez rejeté le Seigneur qui est au milieu de vous et parce que vous avez présenté cette plainte, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» C'est ça la plainte qui est derrière. Donc on le comprend désormais, hein, la demande du peuple, elle a rien de légitime. Elle est une forme de négation de tous les bienfaits que Dieu lui prodigue chaque jour et donc bien loin de susciter la compassion de Dieu. Elle provoque sa colère. Alors, je l'ai dit au début, il n'y a pas que le peuple qui se plaint là-dedans. On a aussi Moïse qui se lamente. Alors, je vous remets le passage des Lamentations de Moïse. Je ne vais pas le relire, mais vous l'avez sous les yeux. Et vous allez voir que le cas de Moïse, il est tout différent. On pourrait penser qu'il ne supporte plus le peuple qu'il en veut au peuple. Il en veut Israël. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Dans les tout premiers versets, il y a un petit épisode sur lequel je ne me suis pas attardé, mais où la colère de Dieu engendre un feu dans le camp d'Israël, et on voit Moïse qui intercède et qui permet que ce feu s'arrête. Donc, et puis on le verra encore dans les chapitres suivants, intercéder pour Israël, négocier avec Dieu en faveur du peuple d'Israël. Donc je pense qu'il y a un profond amour, un profond attachement de Moïse à ce peuple. Donc il ne se c'est pas qu'il ne peut plus le supporter, c'est plutôt il se plaint que le peuple soit un fardeau trop lourd à porter. Ce sont les mots que Moïse emploie. Il se trouve désemparé de ne pouvoir répondre aux besoins de son peuple, probablement comme une mère qui saurait calmer les pleurs de son enfant. Le problème n'est donc pas qu'il ne peut plus supporter ce peuple, mais qu'il ne se sent plus capable de répondre à ses besoins. C'est un aveu d'impuissance, et son désarroi est tel qu'il en appelle à la mort. Vous l'avez entendu au verset 15. Frères et sœurs, combien de responsables d'église de nos jours se trouvent dans cette situation, frisant le burn-out? Je peux vous dire, en tant que fils de pasteur, vous témoignez que la charge pastorale, elle laisse rarement indemne. Et ce qui est dramatique ici, c'est que Moïse, dans son souci de prendre soin du peuple, il ne semble même pas réaliser que celui-ci va trop loin. Qu'il s'agit, cette fois-ci, contrairement aux fois précédentes, d'un caprice. Il est comme aveuglé par son souci de bien faire, il se donne sans compter pour cette mission qu'il n'a même pas choisie, mais qu'il a à cœur de remplir par obéissance au Seigneur. Je vous rappelle que le Seigneur qui est venu le chercher, Moïse. Mais Israël abuse de cette abnégation. Il tire dangereusement sur la corde, et on le voit ici, sans l'intervention miraculeuse de Dieu, les protestations incessantes des brebis auraient pu finir par tuer leur berger. Donc en plus de déplaire à Dieu, puisqu'il s'agit d'une forme de reniement, ces appels mal ajustés peuvent avoir des conséquences funestes. Le réalisons-nous? Je pense que c'est une leçon pour nous aujourd'hui. Et je ne pensais pas tomber autant à propos. Alors, en résumé sur ce petit survol, nous sommes donc face à deux types de pleurs ou de lamentations ou de protestations, appelez-les comme vous voulez. D'un côté, pour Israël, il y a une demande qui est centrée sur soi-même, qui vise le confort, qui est poussée par la convoitise, et en plus d'un groupe au sein du peuple, vraisemblablement étranger de Dieu. De l'autre, un cri du cœur, l'expression de la souffrance de ne pouvoir satisfaire la demande de ceux dont on a la charge. Et nous, frères et sœurs, quelles sont nos lamentations? Quelles sont nos plaintes du moment? Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de protester ces jours-ci? Dans quelle catégorie se rangent nos soucis du moment? Est-ce que nos demandes sont centrées sur nous-mêmes ou est-ce qu'elles découlent de notre souci des autres? Est-ce qu'il s'agit d'égoïsme, quand bien même il serait déguisé, ou bien d'amour? Et quel fruit cela produit-il? La suite du récit nous montre que le Seigneur a répondu aux deux, de manière miraculeuse et de manière puissante. Mais dans un cas, son intervention soulagera le besoin. On voit qu'il a mis exactement en place une forme de délégué à Moïse pour qu'il soit plus seul à porter la charge. Et dans l'autre, elle donnera l'écœurement et la nausée. Les mots à la fin du passage sont très forts. Et vous n'en mangerez pas seulement un jour ou deux, ni même 5, 10 ou 20, mais tout un mois jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et jusqu'à ce que vous en ayez la nausée. C'est pas spontanément les paroles qu'on attend d'un Dieu d'amour, et pourtant. Je voudrais prendre un moment, pas vous perturber avec un affichage précoce, mais je voudrais. Ce texte m'amène à parler d'un problème qui est le problème de la victimisation. Le peuple hébreu exprime à plusieurs reprises, lorsqu'il est en difficulté, chaque fois ce qui revient, c'est qu'il n'a pas choisi de sortir d'Égypte et que d'une certaine manière, c'est Moïse ou Aaron ou Dieu ou les deux ou les trois qui les a mis dans cette situation. C'est un peu comme s'il disait « Tout ça, c'est de votre faute, à vous de réparer ». On sait que cette posture victimaire, elle est malhonnête, parce que le peuple aspirait à sortir d'Égypte, ils étaient maltraités là-bas, ils vivaient une vie de misère, ils aspiraient bel et bien à quitter leur situation. Donc c'est malhonnête de dire qu'ils ne sont pas dans cette situation. Et pourtant, se réfugie derrière le fait que c'est Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, qui l'a sorti d'Égypte, quelque part comme si, presque à l'insu de leur plein gré, comme on dirait aujourd'hui. Alors, reconnaissons que le statut de victime si difficile soit-il, présente des avantages. Il fait reposer sur un autre les torts. Il nous dédouane de toute responsabilité dans les difficultés qu'on subit. Pour le dire autrement, s'il y a une victime, c'est qu'il y a un coupable, ou au moins un responsable, et que celui-ci doit réparation. Ainsi, quand on est victime, l'autre, la société, ou même Dieu, a en quelque sorte une dette envers nous. En l'occurrence, Israël peut dire à Moïse, « Puisque tu nous as mis dans cette situation, tu as le devoir moral de nous en sortir. » Et au passage, on sait que Moïse, comme la plupart des personnes que Dieu a appelées en responsabilité, c'était pas quelqu'un de très sûr de lui. C'était une personne humble qui manquait d'assurance. On peut le voir, en avoir confirmation au chapitre suivant, chapitre 12, verset 3. Imaginez la pression qu'une telle affirmation place sur ses épaules, puisqu'il la prend au sérieux, et les dégâts que cela peut causer. Au verset 10, Moïse entendit le peuple qui pleurait, groupé par clan à l'entrée de sa tente, juste derrière là où il habite. Et il s'exclame au verset 13, « Où trouverai-je de la viande pour en donner à tout ce peuple ?» Moïse, en bon responsable de son peuple, en bon responsable d'église, on pourrait dire aujourd'hui, se fait un devoir moral de répondre aux demandes de son peuple. Il cherche à bien faire, quand bien même cette demande est totalement irréalisable. Il le sait lui-même, puisque, comme je l'ai lu au verset 22, il dit « Quand bien même on abattrait pour eux petit et gros bétail, cela leur suffirait-il ? Tous les poissons de la mer, si on pouvait les pêcher, cela leur suffirait-il ? » Il se rend bien compte que même quand Dieu répond en personne à la demande, et s'apprête à répondre de manière miraculeuse, Moïse se rend compte que cette demande elle est irréalisable. Et pourtant, il se fait un devoir moral d'y répondre. Alors je pense que une leçon pour nous aujourd'hui, c'est de ne pas en demander trop à nos conducteurs, à nos bergers, qui peuvent aussi se laisser aller par orgueil, attention. Mais voyez comme Moïse se fait ici manipuler. Alors vous savez que j'aime bien faire un peu de philo, et donc si on va un petit peu plus loin, si on parle de victime, c'est qu'il y a un coupable, c'est indissociable. Mais comment on peut reconnaître qu'il y a une victime et un coupable ? Il faut bien un tiers, quelqu'un d'extérieur, un juge, quelqu'un de neutre pour avérer un tel est victime, un tel est coupable. Rappelez-vous le fameux jugement de Salomon dans le livre des Rois au chapitre 3, versets 16 à 28. Je ne vous relis pas ce passage, j'imagine que vous le connaissez, il est extrêmement célèbre. À écouter les deux femmes qui se plaignent séparément, elles étaient toutes les deux victimes. Et toutes les deux pouvaient prétendre légitimement à garder le bébé vivant, si on entend leur discours. Et c'est le discernement du roi qui a permis de trancher, au sens figuré, puisqu'il n'a pas eu besoin de le faire au sens propre, qui a permis de trancher et d'établir qui était effectivement victime, qui nécessitait réparation et qui pouvait garder l'enfant. Alors ce tiers qui va permettre de déclarer ou d'établir le caractère de victime de quelqu'un, peut prendre en réalité des formes diverses. Ça peut être un juge, mais ça peut être aussi un médecin, parce qu'on est victime d'une maladie ou d'un trouble. Ça peut être aussi l'ensemble de la communauté à laquelle on appartient dans le cas d'un préjudice évident. Peu importe, mais c'est extérieur à soi-même. On ne peut pas se déclarer soi-même victime sans conflit d'intérêts. Puisque le statut de victime confère des intérêts, si on se déclare victime, il y a conflit d'intérêts. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, je vais peut-être vous choquer, mais j'en suis convaincu. Je ne dis pas être victime, je dis se présenter en tant que victime, comme le fait le peuple ici, c'est toujours une forme de manipulation. Que cela soit pour prétendre à un droit, nos étudiants, ils ont un certificat médical qui dit qu'ils sont dyslexiques ou je ne sais pas quoi, ils ont droit à un tiers-temps pour les examens. Très bien, ça, être victime ou être reconnu comme ayant un handicap donne droit à compensation. Très bien. Mais se présenter soi-même en tant que victime, c'est une forme de manipulation puisque c'est pour prétendre un droit ou c'est pour attirer l'attention sur soi ou susciter la pitié. Se présenter en tant que victime, c'est-à-dire, faut que je sois bien clair, poser cela en préalable. Dire voilà qui je suis victime de. C'est une posture, en fait, Ça a toujours pour objet d'obtenir de l'autre un gain. Qu'on en soit conscient ou pas, un gain pour, c'est une manière de poser sur lui une obligation morale. Sur lui ou sur la société, hein, c'est à comprendre dans le sens très large. Et cela est d'autant plus pervers qu'en inspirant la compassion ou la pitié, encore une fois, même inconsciemment, la victime autodéclarée, elle va jouer sur les affects, et donc ça va compliquer, ça va brouiller le jugement de ceux qui sont en position de juger. J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose d'extrêmement courant de nos jours. Chacun, tout le monde, on l'entend partout et on en est soi-même, je le prends pour moi aussi, hein, on cherche toujours le malheur, la particularité, le handicap, le traumatisme, le coup du destin, n'importe quoi qui nous exempterait de nos obligations et qui nous conférerait un avantage ici ou là. Et à une échelle plus large, hein, on peut même regarder la rhétorique en géopolitique, comment le fait de s'auto-déclarer agressé vous permet immédiatement d'emmener toute l'opinion avec vous et à vous autoriser à tous les excès. Ça peut aller très très loin. Alors, en cherchant un petit peu de littérature à ce sujet, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher bien loin. Je vous livre ici juste la quatrième de couverture d'un livre écrit par Guillaume Herner, qui est un sociologue et qui notamment commente l'actualité dans la matinale de France Culture depuis des années. C'est une voix que je connais bien personnellement. Mais c'est pas spécialement un chrétien, mais simplement, il fait cette analyse-là. Que resterait-il de l'actualité s'il n'y avait plus de victimes ? Il suffit de jeter un coup d'œil à la télévision pour s'en rendre compte. Du journal télévisé aux émissions de divertissement, la souffrance fascine et occupe le devant de la scène. Pourtant, on aurait tort de réduire cette omniprésence à une simple mode médiatique. Il dit en somme que c'est pas normal et c'est pas juste un effet de mode d'avoir tout le temps la souffrance et des victimes présentées à la télé. C'est le signe d'une évolution profonde de nos sociétés démocratiques. Autrefois, les victimes avaient honte de leurs conditions. Aujourd'hui, la reconnaissance de ce statut est devenue un enjeu. Je ne vous lis pas tout, mais l'exception se substitue à la règle, l'émotion prend le pas sur la raison et l'instrumentalisation de la souffrance se traduit de multiples manières. Et j'attire votre attention sur la fin. La dernière phrase, la cause de la victime en est venue à servir l'injustice. C'est un retournement total. Quand la victime se présente d'elle-même comme victime, c'est elle qui instrumente en fait la justice et c'est très difficile à contrer. Donc on l'a dit, la posture de victime présente un certain confort puisque le problème il vient de l'extérieur et puis pour certains, cette posture devient même une part de leur identité. Soyez attentifs, c'est plus régulier qu'on le croit. Et c'est même assez paradoxal parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de handicapés, on parle de personnes en situation de handicap. J'entendais un journaliste qui commentait ça à l'occasion des Jeux paralympiques. Justement, en disant personne en situation de handicap, on ne veut pas que le handicap soit son identité. On veut rappeler que c'est une personne d'abord qui a par ailleurs un handicap. Ce qui, dans certains cas, paraît un peu vain, parce que quand une personne est en fauteuil roulant, malgré tout, on ne peut pas ne pas voir qu'elle est handicapée. Mais on cherche à rappeler d'abord que c'est une personne, et donc à faire que son identité ne soit pas attachée à son handicap. Et en fait, avec le processus de victimisation, on fait exactement l'inverse. C'est peut-être d'ailleurs pas un hasard, hein, si on voit les deux en même temps, en ce moment dans la société. Mais il faut être conscient que la posture de victime, c'est aussi profondément déresponsabilisant, puisque par définition, si je suis victime, c'est que ce n'est pas de ma faute. Et donc c'est une posture qui est sclérosante, parce qu'elle évite toute remise en question. On se complaît à subir ce qui nous arrive. Je vous donne quelques exemples, pour appuyer, parce que ça me semble vraiment important. J'ai échoué à l'examen, je suis victime de l'humeur de mon prof ou du système, et mon manque criant de travail n'a rien à voir. Je ne connais pas du tout cet exemple-là, c'est complètement au hasard. Mon fils est détestable avec ses camarades à l'école. Très bien, il est certainement victime d'un trouble neurologique qu'on n'a pas diagnostiqué. Et puis la violence dont il est témoin à la maison, il n'y est pour rien. Je dis jamais, il n'y a jamais une cause unique, hein, tout ce que je dis. C'est juste, je caricature un peu pour que vous voyez la posture dans laquelle on est prompt à se mettre, alors qu'il y a peut-être des causes plus évidentes. Mon chef m'a réprimandé. Je suis victime du fait qu'il a ses préférences, hein, et mes manquements de la semaine dernière sont sans aucun lien. Je ne peux m'empêcher de regarder les jeunes femmes. Je suis victime de mes hormones, je suis un homme. Et le plaisir que j'y trouve compte pas du tout. Je fais des achats compulsifs. Je suis victime du marketing, j'y peux rien. et le plaisir de m'afficher avec le dernier gadget à la mode ne joue pas. Je m'emporte facilement. Je suis victime de mon caractère, de mon éducation, je suis comme ça. Et le peu d'égard que j'accorde aux autres n'a pas d'influence non plus. Et puis, pour les chrétiens, ce que je vais vous livrer, l'exemple que j'ai, je l'ai entendu il y a pas longtemps. Ma vie spirituelle ne progresse pas. Je suis victime de l'indifférence de Dieu. Et le peu d'égard, et le fait que je lui consacre très peu de temps et que je ne m'en réfère pas à lui, sans doute, non, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Ou ma prédication n'est pas prête, je suis victime de mon emploi du temps et mon sens des priorités n'est pas en cause. Vous voyez le schéma, hein, et ça peut être sur des petites choses comme sur des choses beaucoup plus profondes. Revenons à Moïse un instant. Dans ses paroles, il insiste lui aussi sur le fait qu'il n'est pas responsable de la situation. Au verset 12, « Est-ce moi qui ?» Il fait bien valoir à Dieu qu'il n'a pas choisi sa situation. Donc on pourrait aussi estimer qu'il se pose en victime. Mais attention, ce qu'il fait valoir, c'est pas le fait qu'il subit, mais qu'il est un simple serviteur obéissant et donc il ne peut pas tout. Et qu'en conséquence, sa marge de manœuvre est limitée. Et d'ailleurs, si vous regardez attentivement, il ne se prévaut d'aucun droit. La seule demande qu'il formule pour lui-même, c'est la mort. Et je crois, frères et sœurs, qu'il préfigure dans cette attitude, en cela aussi, ce que sera le statut de Christ. Parce que Jésus, je ne vous l'apprends sans doute pas, mais Jésus est la victime ultime. Jésus se présente comme la brebis muette devant ceux qui la tondent. Je vous relis ce passage qu'on a eu l'occasion de lire justement dimanche dernier, dans Ésaïe 53. « Brutalisé, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent, elle est muette. Il n'ouvre pas la bouche. » Regardez, dans ce simple verset, trois fois, on mentionne le fait qu'il ne parle pas. Il ne se prévaut de rien du tout. Il est muet, il s'humilie, il subit. C'est exactement le contraire de la posture victimaire. C'est complètement l'opposé. Il est absolument innocent. Il est condamné à une mort atroce à travers un simulacre de procès. Tout fils de Dieu qu'il était, il s'est humilié plus bas que terre. Il n'a jamais essayé de se défendre. Rappelez-vous l'attitude dans le jardin de Gethsémané quand ses disciples commencent à prendre sa défense. Non seulement il ne s'est pas défendu, mais il a empêché les autres de prendre sa défense. Il n'a jamais prétendu à aucun droit que son statut de fils de Dieu lui conférait pourtant. Quel exemple. Bien au contraire, il s'est livré. Je vous invite à relire dans Philippiens 2, à partir du verset 6, lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. Il est donc la victime ultime. Et pourtant, paradoxe ultime lui aussi, il a été reconnu coupable par la justice des hommes. Et nous, frères et sœurs, sommes-nous victimes ? Eh bien, je l'ai dit, pour la justice des hommes, Jésus a été déclaré coupable. Et pourtant, et on se considère facilement, nous, comme des victimes. L'Évangile renverse complètement les choses. Devant Dieu, nous ne sommes pas des victimes, mais des coupables. Vous connaissez aussi ce passage de Romains, chapitre 3, à partir du verset 9. Car nous l'avons déjà établi, tous, juifs comme grecs, sont sous l'empire du péché. Comme il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et regardez comme Paul insiste. Il n'y a pas d'homme sensé, pas un qui cherche Dieu. Ils sont tous dévoyés, ensemble pervertis, pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre béant, de leur langue ils sèment la tromperie, un venin d'aspic est sur leurs lèvres, leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume, leurs pieds sont prompts à verser le sang, la ruine et le malheur sont sur leur chemin, et le chemin de la paix ils ne le connaissent pas, nulle crainte de Dieu devant leurs yeux. Parle de nous, hein, aussi. C'est pas juste les autres, hein. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Sommes-nous donc habilités à nous plaindre ? Moi qui aime tant râler, est-ce légitime de râler ? Eh bien, frères et sœurs, je crois que non. Le faire, c'est tomber dans le travers des Hébreux. Et bien souvent, derrière nos insatisfactions, petites ou grandes, nous sommes en réalité de renier les bienfaits de Dieu. Et rappelons-nous que si nous souffrons, c'est lui qui nous rendra justice, pas les hommes. On n'a rien à réclamer. Il nous appelle à dépendre entièrement de lui, à lui confier nos douleurs. Donc on peut se lamenter, bien entendu, et le Seigneur attend que nous nous lamentions et que nous nous confions nos douleurs et nos peines, oui. Mais tout dépend de dans quel esprit on le fait. Dans 2 Pierre, l'apôtre dit « Car c'est une grâce de supporter, par respect pour Dieu, des peines que l'on souffre injustement. » Qu'est-ce que c'est dur à entendre, ça ? Quelle gloire y a-t-il en effet à supporter les coups si vous avez commis une faute ? Mais si après avoir fait le bien, vous souffrez avec patience, c'est là une grâce aux yeux de Dieu. Or, c'est à cela que vous avez été appelés. Car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Dans sa souffrance, ne menaçait pas, mais s'en rendait au juste juge. Lui qui, dans son propre corps, a porté nos péchés sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont les meurtrissures vous ont guéri. Vous voyez, souffrez avec patience, je l'ai mis en gras. Souffrez avec patience, c'est davantage l'attitude de Moïse que l'attitude d'Israël. Vous voyez comme Israël est prompt à se plaindre, prompt à vouloir davantage, alors que Moïse, œuvre de patience, il est dans une posture d'obéissance et d'humilité. Alors pour terminer, j'ai aucune idée du temps, j'ai pas du tout regardé, excusez-moi, je suis peut-être très long. Je termine avec ces trois messages important que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de vous partager ce matin à travers ce texte de l'Ancien Testament. Trois messages. Attention à ce qu'on exprime dans nos plaintes, nos lamentations, nos protestations, encore une fois, appelez-les comme vous voulez. Est-ce un cri du cœur par amour ou une demande égoïste dissimulée ? Et des fois, c'est très difficile de faire la part des choses. Des fois, c'est très subtil. Demandons au Seigneur sa lumière, pour qu'il fasse le tri. Ensuite, attention à nos attentes envers nos responsables, nos conducteurs. Nous pouvons faire des dégâts. Je vous rappelle que nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, nous ne sommes plus le peuple d'Israël qui a besoin de Moïse pour qu'il intercède auprès de Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire entre nous et Dieu. Nous devons nous adresser directement à Christ. Et soyons vigilants à la posture victimaire. C'est tellement facile de tomber dedans. La seule victime, c'est Christ. Il est mort pour nous, pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et je précise encore, quand je parle de posture victimaire, je parle bien du fait de le poser, de se présenter en tant que victime. Hein. Bien sûr, il y a des victimes, bien sûr, il y a de la souffrance, et je ne nie pas ça. La question, c'est vraiment d'instrumentaliser ça. Jésus ne veut pas un peuple de victimes, mais il nous invite au contraire à goûter à sa victoire dans l'adversité. Plutôt que de nous plaindre, ce qui est le réflexe bien naturel, il nous invite à nous en remettre à lui, à lui faire confiance et à regarder aux choses d'en haut. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, nous dit Paul dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, verset 1, « Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. » L'Esprit Saint nous permet de transcender les déterminismes de notre histoire, de notre nature. Il nous permet de véritablement naître de nouveau. Ce n'est pas un vain mot. Alors si, comme pour les Hébreux, pour reprendre les termes du passage que je vous ai lu, si votre vie s'étiole et que vous ne voyez plus que la manne, n'oubliez pas que cette vie, ou cette manne, sont des cadeaux de Dieu, qu'il vous a rachetés à grand prix et que vous avez une place auprès de son trône. Et je terminerai par ces quelques versets d'Apocalypse 21. Et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Dieu ne nie pas notre souffrance. Dieu ne nie pas nos situations difficiles. Bien au contraire, il en est pleinement conscient. Il les a portées à la croix par son Fils, mais il nous promet qu'il essuiera toutes larmes de nos yeux et qu'il fera toutes choses nouvelles. Amen.